16h-18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, nous sommes le long du canal du Midi, on est pas mal, on apprend plein de choses, on écoute des histoires et on va manger maintenant. Alors ce que j'adore avec le canal du Midi, c'est qu'on pourrait l'appeler tout simplement la route du cassoulet.
Oui.
Parce que finalement, il est fait tous.
On peut pas y échapper. Oui. Mmh. Et on va de ville en ville, de cassoulet en cassoulet.
Ouais.
Et en fait, c'est
vrai que c'est Emmanuel Jarry qui vous parle. J'ai oublié de le préciser quand même.
C'est un plat qui est omniprésent dans l'assiette, mais même dans la pensée. Vous voyez, on se pose toujours plein de questions. On se dit quel est le meilleur cassoulet ? Qui a la paternité du cassoulet ?
Ouais.
Entre Castelnaudary, Toulouse ou Carcassonne ? Quel haricot utiliser ? Le tarbet ou le lingot de Castelnaudary ? Tout ça, vous voyez, c'est des questions importantes,
mais essentielles,
qui animent les repas dans la région, puisque les Français, on le sait, aiment bien parler cuisine en mangeant.
Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est les réponses.
Alors voilà, il y a trois grandes écoles. Le cassoulet de Castelnaudary, on met des haricots lingots de Castelnaudary, du confit canard, plein de morceaux de porc, de l'échine, des couennes, de la poitrine, etc.
Comment vous dites des couennes, vous?
Des couennes, on dit.
Ah, des couennes, ouais.
Moi, je dis des couennes.
Ah oui, c'est mon accent lyonnais, peut-être, je sais pas.
Et à Lyon, on dit des couennes.
Je sais pas. Mais je dis du persil et pas du persil. Il y a plein de choses comme ça. Alors, des couennes. Du jarret de porc, de l'oignon, bouquet garni, assaisonnement. Ça, c'était Castelnaudary. Le cassoulet de Carcassonne, on met tout ça, on rajoute de la perdrix rouge.
De la perdrix rouge.
Oui, monsieur. Délicieux. Et le cassoulet de Toulouse, on met de l'agneau, du mouton, et en fin de cuisson, on met des couennes, du confit de canard, et avant de le passer au four, on le couvre de saucisses de Toulouse.
Ah, il est plus gourmand, celui de Toulouse, alors.
Je sais pas, parce qu'il y a peut-être plus de porc dans celui de Castelnaudary, vous voyez. Enfin, parce que là, tout de suite, vous portez un jugement de valeur,
vrai,
et
bien.
Ça, c'est pas bien,
c'est
parce
pas bien.
Qu'on nous écoute peut-être là-bas.
Excusez-moi,
et ça va
ami de Castelnaudary, je vous demande pardon.
Voilà. Donc, en plus des variantes régionales, on a évidemment des variantes entre familles. Vous voyez, moi, j'ai souvent entendu le meilleur cassoulet, c'est celui de ma grand-mère.
Oui.
Et c'est sûrement vrai, d'ailleurs, parce que le meilleur cassoulet, c'est toujours celui de l'enfance. Moi, mon meilleur cassoulet, alors là, je risque de choquer encore, c'est à Paris, dans le 14e arrondissement. L'assiette, il y a un chef, par exemple.
Alors hier, vous avez égorgé un chevreau. Aujourd'hui, le meilleur cassoulet, c'est à Paris.
Parce que ce chef met des mojettes de Vendée à la place des haricots tarbets, parce qu'il dit c'est plus moelleux. Donc, vous voyez, c'est vraiment un scandale, c'est hérétique, mais c'est bon quand même.
Ah oui.
Donc, moi, ce que je trouve important dans le cassoulet, c'est que, en fait, d'où vient ce mot ? C'est qu'il doit être cuit dans une cassole. Et là, on met tout le monde d'accord. Un bon cassoulet doit être cuit dans une cassole.
Mais qu'est-ce que c'est une cassole ?
Alors, une cassole, c'est un plat en terre cuite qui a donné donc le nom au plat, au cassoulet. Et quand vous arrivez à est-ce qu'on prononce les S ? Sûrement pas. À Mas-Saint-Poel, à côté de Castelnaudary, vous avez la poterie Note qui transforme encore l'argile en cassole. Et en fait, ce qu'on vous explique là-bas, c'est que tout ce qui est cuit dans la terre, c'est meilleur. Donc, si vous faites un cassoulet dans du verre, il n'aura pas le même goût. C'est la même chose pour les tomates farcies, les gratins, vous voyez. Tout
vraiment ?
Je pense que c'est vrai. Ah. Et puis, alors, la cassole, elle a une forme spéciale qui fait que ça glougloute d'une certaine manière.
Ah, on y est, là.
Ouais, c'est ça. Et donc,
il faut que ça glougloute longtemps.
Ah oui.
Parce qu'un cassoulet mal cuit, il n'y a rien de pire.
Ah non, puis il faut casser 7 fois la croûte. Donc, vous voyez, ça forme une petite croûte à la cuisson. Vous la cassez une fois, ça tombe dedans, ça épaissit la sauce. On dit, ce qui veut dire, même si on ne le fait pas 7 fois, que c'est une cuisson très lente.
Ouais.
Et très longue, pardon. Et donc, voilà, il y a cette belle poterie Note. J'aime bien ces endroits parce qu'elle est classée entreprise du patrimoine vivant.
Ah,
parce
oui.
que, vous voyez, elle cultive tout un savoir-faire ancestrale, elle cuit encore ses cassoles dans des fours en bois. C'est la seule poterie en France qui fait ça. Ça met 36 heures à cuire. Mmh. Alors voilà, si vous voulez vous lancer dans le cassoulet maison, faites un détour par la poterie Note pour réussir votre cassoulet.
Très bien. Alors quand on a mangé un cassoulet, 2 cassoulets, 3 cassoulets, qu'on fait 2 jours de pause parce que il faut le temps pour le digérer.
Est-ce qu'on jeûne ou est-ce qu'on...
Voilà comment ça se passe.
Ou est-ce qu'on mange autre chose ? Alors si on en a marre des haricots, on peut manger un peu de riz parce que il y a du côté de Marseillette, il y a un producteur de riz. Donc là, on a dépassé Carcassonne, on se rapproche de l'étang de Thau et c'est un riz qui est cultivé dans l'ancien étang de Marseillette. Donc il y a une eau saumâtre, moitié douce, moitié salée. Enfin, elle est douce en surface et puis salée dans le sol. Le sol est riche en sodium, donc ça lui donne un petit goût particulier. Et en fait, c'est une culture qui a connu des hauts et des bas parce qu'elle a suivi les crises viticoles. Après la crise du phylloxéra, on a planté ce riz. Après, la production a diminué. Et puis, elle est repartie depuis les années 1980. Donc voilà, c'est une petite production, 100 hectares pour 20 000 hectares en Camargue. Mais elle est là, elle existe. Donc, c'est important de la signaler parce qu'on la connaît peu. Et moi, je dis, quand on se balade le long du canal, on a envie de faire des emplettes. Vous voyez, on a déjà acheté une cassole. Ouais. Maintenant, on achète un petit peu de riz.
Et j'imagine qu'il y a un label, c'est protégé IGP ou...
Je crois pas.
Non,
pas sûr. Non, non. En fait, je crois qu'il n'y a plus qu'un seul producteur.
De riz,
oui, à Marseillette.
Un petit riz tout seul, c'est pas folichon, folichon quand même.
Oui, mais alors là, pas de problème, parce qu'on se rapproche de l'étang de Thau, et vous savez qu'il y a une grosse production d'huîtres et de moules sur l'étang de Thau. Donc là, je vous donne une petite adresse. C'est vraiment un gros coup de cœur à Loupian, en face de Sète. Vous êtes dans la zone conchylicole. Donc là, tout de suite, dit comme ça, ça fait pas rêver.
Non.
C'est là où on travaille les coquillages. Vous arrivez face à un hangar, il faut traverser ce hangar, et là... Vous arrivez sur une énorme, enfin une très grande terrasse qui est face à l'étang. On peut déguster les huîtres crues, mais on peut déguster aussi des huîtres gratinées avec une petite fondue de poireaux.
Ah, des huîtres gratinées.
Ah, c'est délicieux. Ouais. Ah non, mais là-bas,
j'ai
vraiment.
J'ai peur, moi, des huîtres chaudes.
Non. Bah, alors là,
même si... Nathalie fait la grimace.
Non,
je
mais,
vois.
Non mais après, chacun ses sales goûts. Hein, mais je,
oh là là,
je préfère, c'est mon expression favorite, vous savez. Non, c'est vrai que pour moi, l'huître, c'est tellement bon, tellement. Ce shoot, ce vraiment iodé comme ça, quand on l'a.
Ah, de le cuire et de le mélanger.
Moi, je l'aime vraiment nature, non, mais alors, elle sort du truc et voilà.
Alors, vous allez à Loupian, chez Atelier & Co, et vous allez changer d'avis sur l'huître, parce que justement, ce côté iodé, vous le retrouvez. C'est quand même des huîtres qui sortent juste de l'eau, enfin, elles sont après un petit peu filtrées, parce que c'est nécessaire pour les huîtres. Donc, c'est comme si vous mangiez à la ferme, vous savez, c'est les fermes marines, en fait, mais voilà. Donc, vous avez des huîtres gratinées à la fondue de poireaux, je les ai goûtées, c'est délicieux. Il y a des moules farcies à l'ail rose de Lautrec, on en a parlé, c'est un ail qui est très doux, donc ça masque pas le goût du coquillage. Et puis vous avez la brazoucade. Alors ça, c'est des moules qu'on fait revenir sur une plaque et on leur ajoute une sauce, chacun à la sienne. Laurent Arcilla, qui est le propriétaire du restaurant, il met du persil, des oignons, du vin blanc. Voilà. C'est calme, le ciel est bleu, vous avez une magnifique vue sur l'étang. Vous buvez un petit verre de pitpoul de Pinès et le vin blanc local.
Oui, il est bon,
vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'autrefois, c'était un cépage qui n'était pas apprécié, il n'y a que les poules qui le piquaient.
Ah, aujourd'hui, c'était les pitpoul. Ah,
c'est ce qu'on
ça.
Dit. Tout le monde l'adore. Voilà. C'est un très bel endroit. Alors pour terminer la promenade, enfin une fois que vous avez remonté le canal ou descendu, je ne sais pas Jean-Bernard, si on monte dans ce sens-là, et
bien
vous terminez par cette petite dégustation de coquillages et vous êtes très content.
Bah, on vient de noter ça dans notre carnet gourmand.
Absolument. Vous donnerez ça dans vos bons tuyaux de l'année prochaine sur le canal du Midi. Merci beaucoup Emmanuel Jarry pour toutes ces bonnes petites astuces. Dans un instant, donc les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour découvrir au mieux le canal du Midi. Et là, tout de suite, pour se détendre, la tribu de Pierre Perret au Café du Canal sur Europe 1.